16h09 minutes à Boulevard 102.1. Antonine Iacarini, Mathias Turcotte et moi-même, Max Larouche, avec vous jusqu'à 18h. On fait le tour des gros dossiers d'actualité notamment. Et il faut dire que depuis 48 heures, on a beaucoup parlé dans l'actualité des fameux nouveaux tarifs de Donald Trump. Trompez-vous pas, c'est pas des tarifs en lien avec la fumée qu'on envoie aux États-Unis pour les empoisonner en s'occupant pas de nos feux de forêt. Ça pourrait venir dans les prochains jours. Ça pourrait venir plus tard, nous dit Donald Trump. Là, c'est vraiment d'autres tarifs qui sont liés notamment aux actions de nous, méchants Canada, d'entre autres, au Québec, je donne l'exemple, d'enlever l'alcool américain des tablettes. Ça, donc là, c'est une réponse des États-Unis envers notre réponse au Canada au premier tarif. Si je résume la situation en quelques secondes...
Si on comprend bien, parce que c'est pas toujours
clair. Ouais, c'est ça. On semble être là-dedans. Maintenant, qu'est-ce qui sera taxé, là, la fameuse nouvelle taxe de 50%? À peu près tout. J'ai envie de le dire de même, là, parce qu'on tire vraiment partout. Il y a des trucs qui frappent un peu plus l'imaginaire. Notamment, on a parlé beaucoup des bâtons de hockey. Puis là, finalement, semble-t-il qu'à la base des bâtons de hockey, il n'y en a même plus tant que ça qui sont faits au Canada.
Une certaine symbolique, peut-être.
Ben, je pense que c'est surtout ça qui a frappé.
Produits laitiers, meubles en bois et autres...
Alcool.
Fabriqués en bois, ouais. Alcool, produits fabriqués en plastique, médicaments. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses.
Pour parler de tout ça, Mathieu Lavigne, vice-président affaires publiques et économiques de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Monsieur Lavigne, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
À 48 heures après là, ces premières annonces-là, bon, au début, ça a comme été comme n'importe quelle annonce, j'ai envie de dire, de Donald Trump. Nouveau tarif, 50%, on n'avait pas de détails, on ne savait pas sur quoi, on ne savait pas pourquoi. Éventuellement, plus de détails sont venus. Les réactions sur le terrain au Québec là, depuis 48 heures, ça ressemble à quoi?
Ben effectivement, ça a été très surprenant. Au début même, on se demandait effectivement est-ce que c'était lié au fameux feu de forêt. Finalement, non, c'est lié à une espèce de justification comme quoi les États-Unis seraient discriminés par rapport à certaines politiques, dont effectivement le retrait des alcools américains, des tablettes, de la SAQ et de la LCBO. Donc, effectivement, c'était très surprenant. En même temps, ça fait maintenant un an et demi qu'on va de surprise en surprise avec cette administration américaine-là. Donc, on est surpris, mais en même temps... On a fini un peu par s'habituer à cette incertitude permanente-là. Le problème, c'est que parce qu'on est habitué à de l'incertitude, ça a quand même un effet sur les investissements. Les entreprises, en fait, déjà avaient nettement ralenti leur cadence d'investissement depuis un an et demi parce qu'elles ne savent pas dans quel univers elles vont se retrouver. Puis là, bien, pour celles qui sont affectées directement par les tarifs, pensons à des compagnies, par exemple, qui fabriquent des emballages. S'il y a des produits qui est taxé, en fait, qui seraient menacés de tarifs dans bientôt 30 jours, ben pour eux, en fait, c'est existentiel parce qu'en fait, les quelques-unes qui pourraient être impactées, les tarifs de 50%, c'est tellement élevé que ça serait pratiquement impossible de vendre sur le marché américain parce qu'il y a de la concurrence américaine. Alors que dans d'autres domaines très nichés, soit on exporte très peu de produits ou... Il n'y a pas vraiment de concurrence américaine, donc c'est les consommateurs américains qui vont payer au final parce qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. Donc, c'est quand même assez difficile de départager tout ça, mais on pense quand même, nos collègues de Desjardins ont sorti une étude à ce sujet-là, que 9 à 10 % des exportations québécoises vers les États-Unis pourraient être touchées. Donc, le potentiel d'impact est très grand. En même temps, qu'est-ce qui peut se passer d'ici 28 jours? Il faut quand même garder une marge de manœuvre.
Parmi tous les tarifs qui ont été annoncés depuis un an et demi, c'est lesquels qui font le plus mal à l'économie du Québec, selon vos observations?
Bien, c'est sûr que quand on regarde les impacts sur le terrain en ce moment, quand on pense à l'industrie de la forêt et des meubles en bois, c'est sûr où on a vu le plus de décisions très difficiles que des entreprises ont dû prendre depuis maintenant plusieurs mois. On a vu carrément des fermetures, mais également des réductions de quart de travail, de la délocalisation de production. L'industrie du bois était déjà soumise à la crise perpétuelle du bois d'œuvre depuis des années. Combiner ça aux difficultés d'accéder à la ressource en forêt et à d'autres enjeux comme ça, eux, c'est eux qui le vivent le plus difficilement en ce moment. Donc, tout ce qui est industrie forestière, mais également pâte et papier, meubles, c'est probablement les plus durement affectés. Également, tous les transformateurs d'acier d'aluminium. Ce n'est pas nécessairement les grandes alumineries elles-mêmes, mais les plus petites entreprises, les PME, qui transforment des produits en acier aluminium. Les nouveaux, les tarifs, pas les nouveaux dont on parle en ce moment, mais ceux de la vague d'avant qui affectent les produits transformés en aluminium et en acier, eux sont très durement impactés aussi également.
Le Canada qui n'aurait pas l'intention de riposter avec de nouveaux contre-tarifs, c'est ce qu'a dit le représentant américain au commerce, Jamieson Greer. La position de la Fédération des chambres de commerce du Québec là-dessus, sur la position du fédéral d'imposer ou pas des contre-tarifs des États-Unis, c'est laquelle?
Bien, on comprend le réflexe de certaines personnes de vouloir répliquer, avoir des contre-tarifs ou des mesures de représailles. Mais ce qu'on a observé depuis le début de la posture de cette nouvelle administration américaine-là, c'est qu'en fait, les seuls contre-tarifs que le Canada a mis en place, leur premier impact, ça a été de faire mal à nos propres entreprises et d'obtenir aucun gain en retour. Si, à la limite, au départ, tous les pays du monde, les principaux partenaires commerciaux des États-Unis, s'étaient tous ligués ensemble pour mettre en place des représailles, peut-être que ça aurait pu avoir un impact. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que si on met en place des contre-tarifs, par exemple, sur des importations qui arrivent des États-Unis, ben, ce sont nos propres entreprises qui importent de ces produits-là américains et qui les transforment. Donc, c'est nos propres entreprises qui seraient les premières victimes d'avoir des représailles. Donc, nous, cette logique-là d'escalade. Le Canada, il faut quand même être conscient que le Canada est un partenaire commercial nettement plus petit que les États-Unis et le Québec encore plus. Donc, à cette logique-là d'escalade, les chances qu'on soit gagnant sont quand même pas si élevées que ça.
Bon, donc vous, de votre côté, vous dites la solution, c'est pas nécessairement d'en rajouter puis de faire une escalade, vraiment une guerre commerciale avec les États-Unis. Donc, les membres, les gens sur le terrain, qu'est-ce qu'ils demandent? Juste de l'aide du gouvernement, dans le fond? C'est ça qui est attendu par les entreprises en ce moment pour faire face à la tempête?
De l'aide, en fait, c'est même pas tant de l'aide parce que les quelques-uns qui sont impactés, c'est tellement existentiel qu'il n'y a pas vraiment d'aide financière qui pourrait les aider. Puis il y a déjà des programmes qui sont mis en place pour certains secteurs plus précis. Leur vraie attente, c'est que, on le voit là, peu importe ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, est-ce qu'on met en place des représailles ou pas, l'administration américaine change sa politique, ses tarifs à tous les mois, à toutes les semaines pratiquement. Donc, l'attente des entreprises, c'est que nos gouvernements agissent sur les leviers que nous contrôlons. Par exemple, tu sais, favoriser les produits des entreprises d'ici dans les contrats publics du gouvernement. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ça fait 1 an et demi qu'on prend connaissance de l'importance d'acheter local et de miser sur nos propres entreprises. Mais les gouvernements sont encore très lents à agir dans ce domaine-là. Ne pas se nuire, par exemple, en mettant des restrictions sur les travailleurs étrangers temporaires. Nos entreprises qui ne sont pas affectées par les tarifs vivent les restrictions des travailleurs étrangers temporaires, donc doivent, t'sais, fermer des corps de production, même envisager de résilier des contrats parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre pour le faire. Donc, l'attente des entreprises, c'est que nos gouvernements, un, ne nuisent pas à ce qu'on fait déjà ici et les aident, mais par des contrats publics ou d'autres mesures qui ne sont pas de l'aide financière directe. L'aide financière directe, il n'y a rien qui peut pallier à 50 % de tarifs aux États-Unis quand tu exportes, par exemple, 75 % de ta production là-bas. Il n'y a rien qui va pouvoir t'aider. Il faut que tu trouves des nouveaux débouchés, soit ici au Canada, au Québec, ou sur des marchés internationaux. Par exemple, investir dans des projets d'infrastructure du port de Québec, du port de Montréal pour débloquer des nouveaux marchés. Ça, c'est une mesure structurante pour nos
Puis,
entreprises.
on parlait d'imprévisibilité. On s'habitue à l'imprévisibilité. Ben, les marchés, en fait, s'habituent un peu à l'imprévisibilité américaine. Mais nos gouvernements créent aussi une imprévisibilité. Là, vous parlez de grands projets, c'est sûr que ça m'accroche. On fait du avance-recul, on annonce plein de choses en même temps. Là, ça va être la campagne électorale. D'avoir des politiques industrielles ou de grands projets qui sont plus prévisibles, qui sont plus costauds, ça, est-ce que ça pourrait contribuer à aider les entreprises à passer à travers la tempête?
Bien, la prévisibilité, c'est probablement la chose la plus importante dans les décisions d'affaires des entreprises. C'est pour ça que la crise aux États-Unis leur fait mal en ce moment, parce que c'est d'abord et avant tout l'imprévisibilité dans les tarifs ou les accès qui leur fait mal. Même chose pour les politiques de nos gouvernements. Ça prend une vision beaucoup plus structurée de notre économie. Par exemple, nous, c'est pour ça qu'on propose et qu'on recommande qu'il y ait une politique industrielle québécoise claire, c'est-à-dire identifions c'est quoi nos forces, c'est quoi nos secteurs stratégiques et concentrons les actions du gouvernement, de la société en général, du milieu économique dans ces secteurs-là où on sait qu'on est capable de compétitionner sur les marchés
Il n'y en a pas de
internationaux.
politique industrielle claire en ce moment au Québec?
Non, à notre avis, non. Il y a des actions qui sont menées dans différents domaines où ça change selon l'air du temps, mais il n'y a pas une politique structurée sur nos principaux secteurs, nos principales forces. Et pour y aligner, là, c'est à la fois les politiques d'investissement, mais aussi les politiques de main-d'œuvre. C'est quoi les secteurs prioritaires où on doit miser sur la formation de la main-d'œuvre, le développement, l'immigration? Trouvons nos forces, nos créneaux. On ne sera jamais expert dans tout. Aucune société, aucune économie ne l'est. Mais ça prend cette vision-là où on peut articuler toutes nos politiques autour d'une vision industrielle parce que ça va répondre à l'enjeu de prévisibilité. Il faut donner à nos entreprises des signaux clairs. Si vous êtes dans tel créneau, par exemple, on dit que la défense en aérospatiale, par exemple, on est très fort, ou dans le secteur, je ne sais pas moi, de la forêt, on est très fort, ben, misons sur ces secteurs-là où on est particulièrement performant et agissons en conséquence.
Comment expliquer qu'en 2026, au Canada, ce soit encore aussi compliqué dans bien des domaines de transiger entre les provinces? Et là, hier, il y a comme une annonce par rapport au marché de l'alcool, où là, on comprend que le Québec devrait embarquer dans cette annonce-là, où à la base, c'est quand même une majorité de provinces qui embarquent. Mais comment expliquer que, puis pourtant, ça fait des années, me semble, qu'on en parle du fait que on est dans un grand pays. On pourrait en profiter pour faire des échanges entre nous. On comprend qu'à la base, il y avait des raisons pourquoi on voulait protéger certains secteurs puis de garder ça à l'intérieur d'une même province. On le comprend maintenant dans le nouveau contexte. Comment ça, c'est long de même avant de les enlever, ces barrières-là entre les provinces?
Oui. On a d'ailleurs, avec nos collègues des chambres de commerce des autres provinces et territoires, souligné l'annonce d'hier sur le commerce de l'alcool. C'est un pas en avant. L'alcool, c'est souvent un peu le symbole, mais en fait, c'est pas ça qui, pour l'économie, est le plus important. Il y a tellement eu, avec le temps, d'évolution de réglementation qui ont rendu les provinces différentes les unes des autres. C'est ce qui rend le commerce difficile. Je pense notamment à l'industrie de la construction. Les codes du bâtiment sont différents au Québec de l'Ontario. Pourtant, on construit tous les deux des bâtiments dans des climats et des contextes relativement similaires. Comment ça, on n'a pas une certaine harmonisation dans ce domaine-là? Il y a plus du double de corps de métier en construction au Québec par rapport à l'Ontario. Pourtant, encore une fois, on construit des bâtiments dans un contexte similaire, mais on a évolué de manière différente. Dans le cas du Québec, on a complexifié beaucoup, notamment dans ce domaine-là. Mais on est rendu, là, je crois, à prendre conscience du fait que l'harmonisation avec d'autres provinces, un des gros intérêts, c'est que nos travailleurs et nos entreprises peuvent aller chercher des contrats ailleurs et compétitionner. On a une industrie, c'est de la construction, du génie conseil, qui sont très performantes au Québec, mais pour ça, il faut pouvoir harmoniser les règles pour pouvoir être présent ailleurs. C'est présent dans plein d'autres domaines, en agroalimentaire, dans le transport routier. Il y a également des règles qui diffèrent de province en province. À chaque fois, là, dans l'absolu, ça vient d'un bon fond. Il y a une bonne raison pourquoi ces règles ont été mises en place, mais avec le temps, c'est devenu tellement complexe que pour des entreprises, c'est aussi compliqué d'aller développer le marché d'une autre province canadienne que d'aller développer le marché américain ou le marché français. Donc, pourquoi ne pas aller là où il y a plus de consommateurs potentiels? Donc, il y a vraiment une importance de réduire ces barrières-là pour développer des nouveaux marchés au sein même du Canada.
Mathieu Lavigne, vice-président Affaires publiques et économiques de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Un gros merci pour votre temps.
Merci de l'invitation.
Bye bye.
Le retour de Boulevard 100%.